Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Monsieur Michel Moussé-Médiao, il est journaliste et il est éditeur des Média Plus Magazine. C'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Bonjour Michel Moussé-Médiao.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous mes combatteurs. Merci.
Madame Bibi Cheliane Salumu, membre de la société civile de Kisangani dans la province de la Tchopo. Elle est enseignante des sciences politiques et du genre. Bonjour Madame Bibi Cheliane Salumu.
Bonjour, Monsieur Guy Maté, bonjour, mes co-bassateurs.
Et ici, au studio de Radio Capi, nous avons John Kanyunyu, il est journaliste et correspondant de La Voix de l'Allemagne, détruite en RDC. Bonjour, John Kanyunyu.
Bonjour, Guy Maté, bonjour à tous les co-débatteurs de ce matin.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes d'un regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de M. Michel Moussé-Médiao, journaliste et l'éditeur des Média Plus Magazine, paraissant à Kinshasa. Madame Bibi Cheliane Salumu, membre de la société civile de Kisangani dans la province de la Tchopo. Elle est enseignante des sciences politiques et du genre. John Kanyunyu, journaliste et il est correspondant de La Voix de l'Allemagne de Tchvelé en RDC. Au menu de cette émission, retombée des 9e Jeux de la Francophonie, quid du processus de cantonnement du M23 et problématique du développement local. Mais on va commencer par émettre un commentaire sur les drames dans la ville de Bukavu au sud Kivu. En effet, un immeuble de l'Institut La Merveille Omega s'est effondré dans la mi-journée de jeudi 10 août dans la commune de Bagira, à Bukavu, faisant 4 morts et un blessé grave. Bilan définitif établi ce vendredi par les bourgmestres de cette municipalité. Monsieur Patience Bengaya rassure que toutes les personnes que l'on prétendait mortes ou disparues sont réapparues et en vie. Michel Moussé-Médiao, Bukavu, c'est une ville que vous connaissez très bien. Comment d'abord vous réagissez à cette nouvelle faisant état de l'effondrement de cet immeuble et cette école?
Oui, Monsieur Guy Maté, je commence par présenter mes condoléances à tous ceux qui ont disparu, aux familles des disparus. Mais en même temps, vous venez de nous donner une bonne nouvelle pour dire que la comptabilité macabre qui a été établie vient d'être démentie parce que certaines personnes qui étaient considérées comme disparues ont été retrouvées. À propos de cette ville de Bukavu, il n'y a pas que Bagira. Vous savez, Bagira, c'est tout au-dessus du lac Kivu. Et en général, de manière générale, on constate que depuis quelque temps, il y a soit des érosions qui emportent des maisons et avec elles des vies humaines, mais également des incendies presque tous les jours. Hier ou avant-hier, il y a par exemple le quartier Founou. Toutes les maisons sont parties à cause d'un gros incendie. Bukavu, c'est une ville qui était difficilement bâtissable, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est une ville qui est bâtie sur du basalte. Il y a la roche basalte. La roche basalte ne résiste pas à l'eau. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de barrières dans les quartiers entre les avenues. Quand vous regardez entre l'avenue de l'Hippodrome, l'avenue Paysage, il y a ce qu'on appelait le tingi-tingi, le marécage, qui séparait ces quartiers du camp Sayo, qui est perché vers la Rougie. Et chaque fois, on mettait soit des cyprès, soit d'autres plantes qui sont reconnues étant capables de retenir l'écoulement des eaux. Aujourd'hui, Bukavu n'a plus d'arbres. Aujourd'hui, toutes ces barrières avec des herbes reconnues à l'époque n'existaient plus. Alors c'est tout à fait normal. Et vous assistez à chaque saison de pluie, il y a ce qu'on appelle le quartier industriel. Le quartier industriel, il y avait ce qu'on appelait Dubuis, toutes les eaux qui étaient charriées par Dubuis pour les jeter dans le lac. Dubuis est bouché aujourd'hui. Il y a des maisons qu'on a construites dessus. Et c'est tout à fait normal, et vous le savez très bien, qu'on ne bloque jamais l'eau. L'eau, quand elle n'a pas de passage, elle va se débrouiller, elle va casser tout sur son passage. Et c'est la situation à Bukavu aujourd'hui. Ça me fait très mal, comme vous l'avez dit. C'est ma ville. Et c'est terrible, ajouter à cela, ce drame de l'école primaire de Bagheera. Et ce drame de l'école primaire de Bagheera, construite en hauteur, je me pose la question de savoir finalement à quoi servent encore aujourd'hui les autorisations de bâtir. À quoi servent toutes les administrations qui sont commises autour de la question de la construction des maisons. Il y a ce qu'on appelle les zones édificandi et les zones non édificandi. Et on a remarqué que finalement à Bukavu, on a construit en désordre, on a construit partout, le Belge avait dit, c'est impossible, il ne faut pas construire à ces endroits. Et vous savez que la nature finit par récupérer ses droits, retrouver ses droits. Et je crois que c'est à ça que nous assistons pour la ville de Bukavu.
Merci beaucoup, Monsieur John Kanyounou. Vous avez suivi avec nous Monsieur Michel Semedioawe qui attribue, n'est-ce pas, ces drames par le fait que la ville de Bukavu est construite sur la roche qu'on appelle roche basalte, qui ne résiste pas, n'est-ce pas, à l'eau. À votre avis, pourquoi, si on estime que c'est ça la raison principale, pourquoi on ne peut pas envisager d'étendre la ville à d'autres contrées comme Kavumu, par exemple?
Oui, c'est un problème sérieux. Vous savez, il a parlé de l'époque belge, c'est une bonne chose, mais il y a la démographie qu'il faut mettre aussi sur le compte de ce qui se passe chez nous. Vous voyez, par exemple, la ville de Goma n'était pas construite peut-être pour héberger tout le monde qu'il y a là-bas, autant de millions d'habitants. Bukavu, c'est la même chose, il a parlé du plan de l'urbanisation, et qui aujourd'hui n'est pas respecté. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde est devenu roi télé chez lui. Il suffit que quelqu'un, un agent de l'urbanisme, vienne vous dire non, ici, vous ne devez pas construire, ici, si vous construisez, il faut y ériger un immeuble peut-être à deux étages, mais parce que vous avez des parapluies, vous avez des frères, des amis, autorités, militaires, civils, policières, vous allez appeler ça et là, et puis du coup, l'agent qui est censé faire respecter ces normes-là va se retrouver dépaysé et même humilié. Donc je pense que les drames que nous vivons doivent nous servir de leçons pour que dans l'avenir, nous essayons un peu de respecter les normes, de respecter tout ce qu'il faut pour construire, mais aussi les autorités doivent s'impliquer pour éviter tous ces drames-là. De toutes les façons, ce sont les autorités qui sont responsables de tout ce qui nous arrive, parce que si elles étaient sévères par rapport à tout ce qu'il faut pour construire, je pense qu'on n'assisterait pas au drame que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Voilà un peu mon commentaire sur ce qui s'est passé à Bukavu, tout en présentant mes condoléances les plus sincères aux familles éprouvées.
Michel Moussemedjaoui, on revient à vous. Il y a cet autre facteur que John Kanyou nous vient d'ajouter, c'est les booms démographiques. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de ces constructions anarchiques qui bloquent l'écoulement des eaux. J'ai posé la même question à John Kanyou. Pourquoi on ne peut pas envisager de délocaliser la ville vers des contrées comme Kavumu, par exemple?
Oui, John Kanyumi a raison, vous avez raison. Effectivement, la seule solution pour le moment, un peu comme pour Kinshasa, je dirais même pour la plupart de nos villes au Congo, c'est qu'il faut étendre à défaut de délocaliser. La délocalisation coûtera extrêmement cher sur le plan financier, sur le plan social et sur le plan de la réorganisation des infrastructures. Sous d'autres cieux, vous verrez que avant d'étendre une ville, on commence par construire des infrastructures routières. On commence par construire ce qu'on appelle les services sociaux et même les infrastructures collectives, les routes, les banques, etc. Là où va passer le fil de la SNEL, là où va passer le tuyau de la régie des eaux. Donc, Bukavu a deux possibilités d'extension. Il y a l'extension vers Nyangezi, vers Nyantende. Il y a l'extension vers l'aéroport de Kavumu, à commencer par Birava, à commencer par ce qu'on appelle le kilomètre 18, même après la brasserie, c'est possible. Mais le problème est que, effectivement, et John Kanuni a dit ça, c'est que on a l'impression qu'il n'y a plus personne qui respecte les lois de ce pays. Même ceux qui votent les lois ne les respectent pas. Vous verrez un député ou un ministre qui va construire à un endroit déclaré non edificandi. Alors, si déjà les gens qui prennent les lois, ça veut dire les députés, si les gens qui font exécuter les lois, ça veut dire les ministres, sont en infraction dans ce secteur, alors qu'est-ce que vous allez demander au reste de la population? Qu'est-ce que vous allez demander aux citoyens lambda? Parce que tout le monde veut se bousculer sur un petit rayon, un petit carré vers la ville. En ce qui concerne Bukavu, nous avons vu venir le danger. À un moment donné, il est apparu toute une nouvelle classe politique qui avait de l'argent. À partir de là, tous ces gens ont quitté les milieux ruraux. Ils sont venus dans la ville de Bukavu et personne ne voulait habiter ailleurs que dans la commune d'Ibanda, qui correspond avec le centre-ville actuellement. Et donc, les problèmes sont devenus insolubles parce que on n'a pas freiné ce mouvement dès le départ. Deuxièmement, Bukavu reçoit énormément de réfugiés pour le moment, ceux qui viennent de l'intérieur du pays. Vous savez que l'intérieur du pays, dans la plupart de nos provinces, n'est plus attractif, les gens ne cultivent plus, on veut la vie facile, mais également, il y a des conflits qui déversent sur la ville de Bukavu énormément de citoyens qui viennent de l'intérieur du pays. Alors, quand les citoyens viennent de l'intérieur du pays, ils arrivent avec leur mentalité, ils arrivent avec leurs coutumes, ils arrivent avec leur système de vie en communauté. Et parfois, ils se placent dans un même coin, et généralement, c'est un ressortissant de ce coin d'où ils viennent. Après, petit à petit, ils vont se débrouiller pour trouver un petit coin, un petit lopin, où ils peuvent construire. Moi, j'ai vu les incendies de Founo, par exemple, hier. Rien qu'une seule maison, un incendie dans une seule maison, ça entraînait l'incendie d'une trentaine, une quarantaine de maisons.
Toujours à Bukavu.
Donc, ils sont très serrés, toujours à Bukavu. Je ne sais pas si vous me le permettez, il y a également l'absence totale de services anti-incendie à l'époque. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à l'époque, quand il y avait un incendie à Bukavu, il y a le camion de la RVA qui devait venir de Goma, 90 km à vol d'oiseau, pour aller éteindre un incendie qui s'est déclaré à Bukavu. Évidemment, l'incendie a le temps d'emporter tout le monde et tout le matériel. Il y avait la Pharmakina, qui n'a plus de camion incendie. Il y a l'État qui n'a plus de camion incendie. Alors, je ne sais pas si vous me le permettez, j'ai suivi comme vous, probablement, j'ai vu un homme politique qui a offert 3 camions anti-incendie. Tiloukwe, pour ne pas parler de lui, il a offert 3 camions anti-incendie. Moi, je pense que c'est insuffisant, mais c'est extrêmement important symboliquement que pour dire chapeau bas.
Merci. Merci, Madame Bibiche Liliane Salumu. Comment la situation se présente dans la ville de Kisangani, d'où vous intervenez?
Merci beaucoup. Je présente d'abord mes condoléances, mes sincères condoléances à nos frères, aux familles de Bukavu. Et pour revenir avant de présenter la situation de la Tchopo, j'aimerais quand même placer un mot par rapport à ce qui s'est passé à Bukavu. Je dirais comme mes prédécesseurs qu'il y a un problème là de vision et de management des responsabilités. Donc, il y a un problème de recrutement et les animateurs des services publics qui nous aident pas vraiment à s'assurer de la qualité des ouvrages conformément aux standings internationaux, mais aussi il y a le problème, comme l'a dit, de la qualité des sols vis-à-vis des infrastructures. Mais je note aussi, il y a un problème de vision qui devrait aussi être visible à travers le schéma provincial d'aménagement du territoire. Je ne sais pas si déjà au niveau de la province, des sites que vous disposez déjà, parce qu'à travers ça, on saura maintenant comment aménager et voir la mesure d'anticiper face au boom démographique, comment prendre en charge cette question. Mais ici, à la Tchopo, le grand problème pour nous, c'est l'inondation. Nous avons un problème des inondations et des constructions aussi anarchiques hein, qui posent aussi des problèmes lors des saisons pluvieuses et ça pose aussi des problèmes au niveau des mobilités lorsqu'il y a la pluie. Les gens ont du mal à pouvoir se mouvoir et aussi les maisons sont endommagées avec les biens qui sont à l'intérieur. Une autre question, c'est l'accès à l'énergie qui pose des problèmes. Et lorsque les habitants acquièrent d'énergie, fassent des bricolages et lorsqu'il y a parfois la fourniture d'énergie, ça crée aussi des incendies. En grosso modo, voilà ce qui se pose au niveau de la province.
Merci. On prend une petite pause avec La nature est en colère de Jean-Marc et Annie Versini. Et on revient tout de suite après.
Soyons plus sages, écoutons-la, soyons plus sages.
Sur notre si jolie planète, l'être humain n'est pas le maître. Il n'est que son invité, il ne faudrait pas l'oublier.
Si parfois la terre gronde, c'est pour réveiller le monde. La nature reprend ses droits
en nous disant respectez-moi.
La nature est en colère en voyant ce qu'est la terre. Elle nous envoie ses messages. Écoutons-la, soyons plus sages. Écoutons-la, soyons plus sages.
Nous jetons partout nos déchets.
Certains brûlent les forêts. Créant un effet de serre.
Nous dérèglons les climats.
C'est ça la terre, elle n'aime pas.
La nature est en colère en voyant ce qu'est la terre. Elle nous envoie ses messages.
Écoutons-la, soyons plus sages.
Écoutons-la, soyons plus sages.
C'était La nature est en colère de Jean-Marc et Annie Versini, une chanson interpellatrice. On revient à l'actualité de cette semaine. Le 9e jeu de la francophonie ont été clôturés dimanche 6 août au stade des Martyrs dans la ville de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Ce dernier a affirmé dans son discours de clôture que ces Jeux ont été un événement historique et une satisfaction pour le peuple congolais. Il promet de booster les sports, la culture et l'éducation avec les infrastructures construites pour accueillir ces Jeux. De son côté, Zeina Mina, directrice du Comité international des Jeux de la Francophonie, a dressé un bilan positif des 9e Jeux de la Francophonie. Il l'a en outre salué. L'énorme soutien et l'enthousiasme du peuple congolais tout au long des 9e Jeux de la Francophonie. Signalons que la RDC se classe 9e sur les 37 États et gouvernements qui ont pris part à ces Jeux. Elle a raflé 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Michel Moussé Diawe, vous êtes journaliste et éditeur des Médias Plus, magazine paraissant à Kinshasa. Vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie dans ce qu'ils auront projeté pour longtemps, une image positive de la RDC. On vous écoute.
Oui, on parlera en tout cas pendant plusieurs années de ces Jeux de la Francophonie, les 9e de la série, parce que ce n'était pas évident. Vous savez que les Jeux de la Francophonie s'organisent dans un intervalle de 4 ans. Nous, on n'a eu que 2 ans pour organiser ces Jeux, parce que vous allez vous rappeler que c'était, je pense, la Guinée-Conakry qui devait organiser ces Jeux, mais à la suite du coup d'État, on lui a retiré l'organisation de ce grand événement mondial. Et puis, la RDC a dit, écoutez, moi j'y vais. Et au début, je me suis dit, tiens, le président de la République, Félix Tshisekedi, il sait très très bien qu'on n'a pas suffisamment d'infrastructures, on a 2 ans de moins par rapport à tous ceux qui doivent organiser ces Jeux de la Francophonie, par quel bout on va prendre ça? Deuxièmement, il y a eu un comité voilà, qui est venu, qui a regardé l'immensité de la tâche, et puis ce comité a déposé les armes. Alors moi je saute cela. Les Jeux finalement ont été organisés, ils se sont organisés, et ont laissé des traces indélébiles, et on en parlera pendant très très longtemps, comme je l'ai dit au début. Ça faisait plus de 50 ans que la RDC n'avait pas organisé une grande cérémonie comme celle-là. C'est vrai, il y avait la visite du pape qui était un succès total. Et aujourd'hui, le plus important, c'est que grâce à ces Jeux, nous nous sommes redécouverts nous-mêmes comme étant capables d'organiser des grands événements au monde, comme on l'a fait en 1974 pour le combat Ali Foreman, comme on a bien su accueillir le pape. Et voilà, tous les projecteurs du monde étaient braqués sur la RDC, et j'ai suivi toutes les radios, toutes les télévisions du monde, on ne parlait que de la RDC, beaucoup de gens doutaient, et ici, chez nous, il y en a qui doutaient et il y en a qui combattaient ces Jeux. À l'extérieur du pays, il y en a qui doutaient et qui combattaient l'idée que la RDC puisse organiser ces Jeux. Et moi, dans ma chronique journalière, quand je voyais au jour le jour le succès de ces Jeux, l'impact que ça avait sur le monde, moi je disais, comme on dit habituellement, les absents ont toujours tort. Et moi j'ai ajouté, ceux qui ne sont pas venus auront difficile à se le pardonner pendant très très longtemps. Alors nous revenons aux médailles. Ça fait longtemps, moi je pense d'ailleurs que c'est la première fois que la RDC glane des médailles en or dans des grandes manifestations d'envergure mondiale. On a glané des médailles d'or, on a glané des médailles d'argent, on a glané. Troisièmement, les infrastructures. Ces Jeux nous laissent des infrastructures extraordinaires qui vont nous permettre demain de prétendre organiser une Coupe d'Afrique des Nations, à organiser une finale de Coupe des Clubs, etc. Nous avons des gymnases. On regardait avec beaucoup de jalousie les différents gymnases, les différentes arénas à gauche à droite qui abritaient les jeux de basket dans des salles couvertes. Aujourd'hui, nous en avons. Le plus important, c'est de pouvoir maintenant les entretenir, c'est de pouvoir les utiliser, c'est de pouvoir faire comme tous les pays du monde, avoir des gens qui se renseignent tel événement est programmé à quel moment, et aller solliciter que nous puissions organiser ces grands événements. Il y a beaucoup de pays qui ne sont connus que par les événements qu'ils organisent. Il faut donc que nous puissions être le miroir du monde, le miroir de l'Afrique, et nous sommes situés au cœur de l'Afrique. Tant que nous ne bougeons pas, nous bloquerons le reste de l'Afrique, et nous avons, comme on dit dans le langage de l'aviation, nous sommes le hub. Nous sommes le hub, ça veut dire un point de passage entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et je pense que nous avons le devoir d'accueillir le monde entier chez nous. Voilà.
Merci Madame Bibiche Liliane Salumu, membre de la société civile de Kisangani dans la province de la Tchopo, enseignante des sciences politiques et du genre. Au-delà des infrastructures qui ont été construites, selon vous, quelles pourraient être les retombées, n'est-ce pas, pour la RDC du fait d'avoir organisé ces Jeux d'ici 1 année, 2 ans?
Je reste perplexe parce que il y a un problème de la vision et des moyens mis en œuvre. Parce que si on célèbre les Jeux Olympiques, c'est pour nous permettre, nous aussi, à avoir le vécu quotidien des Congolais. Parce que les Jeux Olympiques... Les Jeux de la Francophonie doivent être l'affaire nationale. Et je pose un regard au niveau de l'ensemble du Congo. Est-ce que ce jeu peut nous apporter la cohésion? Est-ce que c'est une opportunité pour nous de faire voir, comme l'a dit, on est le passage obligé du développement de l'Afrique? Est-ce que ce jeu, est-ce que c'était une opportunité pour nous, je l'espère, à ce que nous puissions dire que nous avons besoin du développement et on ne peut pas parler du développement tant qu'on n'a pas la sécurité. Et la sécurité, ça pose un problème à l'RDC, un problème de vision, de la mise en œuvre. C'est ça, mon inquiétude réside de voir, est-ce qu'au-delà de ces médailles, qu'est-ce qu'on aura de plus positif? Je reste vraiment perplexe à ce niveau. S'il n'y a pas de management de responsabilité, j'insiste sur la redevabilité, j'insiste sur la vision du développement de la RDC. Et ça ne fait que se faire que par le réel engagement de dire non là où c'est non et d'applaudir là où c'est applaudi. Mais là, jusque-là, je sens qu'il y a un peu de confusion dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes en train de dire. Voilà.
Merci, madame. John Kanyunyu, journaliste correspondant de la Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle en RDC. L'un des défis après l'organisation de ces Jeux, c'est préserver non seulement les infrastructures, Moussa Diawé l'avait relevé, mais aussi préserver l'image que le pays a pu montrer, n'est-ce pas, à la face du monde. Serons-nous en mesure de sauvegarder ces acquis?
Oui, mon co-débatteur Moussa a tout dit. Il a tout dit, il a jeté des éloges sur cette organisation de Jeux de la Francophonie, c'est bien. En tout cas, je félicite les organisateurs pour cette réussite, parce qu'au début, il y avait des doutes, surtout qu'il y avait déjà un conflit diplomatique entre la RDC et le Rwanda, parce que c'est Louise Mushikiwabo qui est la secrétaire générale de la francophonie. Vous savez le conflit qu'il y a aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda, et on a presque politisé ces jeux-là. Dieu merci, j'ai toujours dit que Dieu était congolais. On a abouti quand même au résultat que nous sommes en train de louer aujourd'hui. Mais je me dis, je n'ai pas confiance aux gérants aujourd'hui, aux compatriotes qui vont gérer ces infrastructures. Donc, ne vous étonnez pas que demain ou après-demain, on assiste à des tricks comme ça fit le cas, même au Stade des Martyrs, nous connaissons ce que ça fait, et on n'a pas besoin d'étaler notre nudité à la place publique. Mais je demande aux responsables de gérer ces infrastructures à bon père de famille. Mais aussi, je me dis, l'organisation de ce jeu de la francophonie m'a fait réfléchir quand même. Ça fait des décennies que nous sommes en guerre dans la partie est de notre pays. Et à un moment donné, quand la guerre perdure, il y a certaines gens qui disent, mais tu es est, vous comprenez, la guerre c'est toujours là-bas, est-ce qu'ils vont nous éviter d'évoluer? Est-ce que c'est tout le jour qu'on va passer guerre? Mais moi je me dis, je me suis étonné de voir que les Congolais étaient capables de faire quand même quelque chose qui puisse étonner. Si les responsables, si le gouvernement congolais, si l'armée congolaise, si la police, si tout le monde à son niveau essayait peu de s'organiser ou de mettre, de conjuguer les efforts ensemble pour ramener la paix dans la partie est de notre pays, comme les gens se sont mobilisés pour l'organisation des Jeux de la Francophonie, je pense que demain ou après-demain, on ne parlera plus massacre à Beni, à Irumu, à Djougou, donc à Ituri, au nord Kivu, et au sud Kivu, dans le territoire des Fizi là-bas. Je me dis, apparemment, les Congolais savent organiser des choses, mais il manque ce qu'on appelle la volonté politique. Moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir comment les choses s'organisent pour pacifier la partie est de notre pays, parce que je me dis, si cette partie-là était pacifiée, en tout cas, Je pense que même les gens aujourd'hui qui vont en politique se diront que non, ça ne vaut pas la peine d'y aller parce que avec le cacao, avec autre chose, ils peuvent se débrouiller et construire l'avenir de leur progéniture tout en restant en dehors de la politique. Bref, que les autorités congolaises qui me suivent à ce moment comprennent, dupliquent l'Organisation des Jeunes de la Francophonie pour nous ramener la paix dans l'est de notre pays parce que les gens en souffrent et je me
disais... Donc elles utilisent la même détermination qu'elles ont utilisée pour organiser ces Jeux, utiliser la même détermination pour rétablir la paix dans la partie est du pays.
Oui, c'est ça. Ce qui nous manque, c'est la détermination. Bien sûr, le commandant suprême peut avoir cette détermination, mais ceux-là qui doivent l'aider à matérialiser son rêve, s'ils ne sont pas des cœurs avec lui, s'ils ne sont pas dans sa logique, rien ne peut se faire. Donc je me dis, mettons du sérieux dans ce que nous faisons, et demain, après-demain, il y aura la paix chez nous, dans la partie est. Mais je me dis aussi, il a fallu utiliser ces podiums, utiliser ces Jeux de la Francophonie, pour dire au monde que, non, malgré que vous nous voyez rire ici, il y a, dans la partie est, et ça ne va pas. Il y a des gens qui se font massacrer tout le jour. Il y a des gens qui se font tuer même par leurs frères. Je parle de la milice Codeco en Ituri, dans les territoires du Ndjougou. Donc, ça devait normalement être une tribune pour le Congolais de passer le message, le vrai message, le vrai visage de notre pays, que non, chers amis africains, chers amis européens, américains, aidez-nous à restaurer la paix chez nous parce que nous savons que cette guerre, les massacres, l'insécurité dans la partie est de notre pays est aussi entretenue par certaines multinationales.
Merci. Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale, comme vous le savez. Félix Wazekwa s'est produit ce samedi 12 août au stade des Martyrs de Kinshasa. Nous allons donc écouter sa chanson intitulée Texto et elle revient juste après.
Ah, Yachimine Edi Mustafa. Moza Pro Way.
Aïe, Yachimi, Yoka, me voir dans Rosia, et le Mia Polygono, chéri, et Gadi Migana Limuisa, Roma Bungisa, Santi Maroyona, Luka, amour de tous qui me reste ma chambre à des Alibison, car dans la place à nos cœurs, de faire qui est des infiltrés.
Chimus Kabengeli, vous tuez Koti, Bolimonova, ils ont pas de carizoma.
Aïe, Yachimi, Yoka, me voir dans Rosia,
Vraiment, yo Bomboki Achille ma bébé en boma.
Jose bien à Tony Blair hors du commun, allez dribbler ma.
Ah non qu'il y a moli poma et le monde fou, le monde est fou. Je lui dis pas ton bobona et qu'on dit ma Roberto.
Radio Okapi. Regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur les drames dans la ville de Bukavu, avec des effondrements des immeubles, des incendies et des érosions. Nous avons également parlé de ce que pourraient être les retombées des 9e Jeux de la Francophonie organisés à Kinshasa. Participe à cette émission, Michel Moussé-Mediawe, il est journaliste et il est éditeur des médias plus magazines paraissant à Kinshasa. Madame Bibi Cheliliane Salomou, membre de la société civile de Kisangani dans la province de la Tchopo, enseignante des sciences politiques et du genre. Et John Kanyunyu, journaliste, il est correspondant de la voix de l'Allemagne d'Etvele en RDC. 11 personnes ont été tuées à la suite d'affrontements entre les rebelles du M23 et les groupes d'autodéfense le dimanche 6 août dans les villages de Mahangara, dans les territoires de Rutshuru. On a aussi enregistré plusieurs blessés, des maisons incendiées et des biens détruits. Plusieurs sources locales affirment que les rebelles du M23 ont attaqué les groupes d'autodéfense dans ces villages avant de commettre ces tueries sur les populations civiles. Cette attaque est intervenue entre 3h et 6h du matin. Dans une déclaration, le mouvement citoyen La Vision pour la victoire du peuple note que les victimes sont des civils qui n'ont aucun lien avec les hostilités. Il dénonce cette méthode récurrente du M23 de massacrer des civils dans cette partie de Rutshuru sans intervention des forces régionales déployées dans la région. On rappelle que l'état de siège est en vigueur depuis plus de 2 ans dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. John Kanyunyu, vous êtes ici aussi avec nous. D'abord, comment vous réagissez face à ces nouveaux massacres des civils perpétrés par le M23 dans les territoires des Rutshuru?
Oui, je présente mes condoléances aux familles éprouvées et bonne guérison aux blessés, rescapés de ces tueries-là. Le problème, c'est que ce qui se passe dans les Rutshuru, vous savez, le conflit qu'il y a parce que quand vous parlez du M23 tout court, ça gêne certaines sensibilités. On parle du M23 RDF actuellement. Donc c'est une situation qui devait normalement être prise au sérieux et les mesures normalement devaient être prises pour mettre fin à cette guerre. Bien sûr, il y a les efforts qui sont fournis au niveau du gouvernement. On a parlé de la formation des militaires. On nous a dit qu'il y a 30 000 hommes qui vont quitter les centres de formation pour ce travail. C'est bien. Mais la guerre, on ne la termine pas seulement sur la ligne de front. Il y a plusieurs guerres dans une guerre. Donc, je pense que tout en privilégiant la force contre le M23, je pense que notre gouvernement devrait aussi voir le volet diplomatique et politique pour en finir une fois pour toutes.
Et que répondez-vous à cette opinion selon laquelle la diplomatie congolaise a utilisé toutes ses armes?
Toutes ces armes, je ne pense pas. Il y a toujours, il y a encore autre chose à faire pour...
Il y a toujours des cartouches
Il y a toujours des cartouches de réserve pour... ramener la paix dans cette partie-là. Je me dis, le M23, c'est même M23, parce qu'aujourd'hui, c'est le M23 bis. En 2012-2013, c'est même M23 a été défait par l'armée congolaise et les commandants de ces mouvements rebelles et certains combattants avaient fui en Ouganda et d'autres au Rwanda. Et nous, on a célébré, on a dit, le M23 est fini, voilà. La deuxième étape était les opérations militaires contre les ADF dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Mais vous comprenez que l'option militaire n'a tellement pas payé. Parce que si elle avait vraiment payé, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler du M23 qui était déjà enterré. Mais on parle aujourd'hui du M23 parce que le gouvernement avait privilégié cette force-là, tout en mettant de côté le volet diplomatique et politique. Hein, donc aujourd'hui, l'M23 est là. Donc bref, pour arrêter, mettre fin au massacre, mettre fin aux tueries dans le Rutshuru, dans d'autres coins, à Beni, à Irumu, donc en Ituri, je pense que tout en privilégiant la force, le gouvernement congolais doit aussi appliquer la diplomatie agissante, j'ajoute, pour espérer à une paix durable dans cette partie du pays, parce que c'est depuis des décennies que la population de cette partie-là est en guerre et elle n'a jamais retrouvé la paix. Si la paix est retrouvée, ça ne dure pas plus de 2 ans.
Merci Michel Moussembe Diawe. Ce nouveau massacre a été commis dans une zone contrôlée par les forces de l'EAC. Peut-on affirmer que la présence de ces forces ne suffit pas pour sécuriser les civils?
Bon, Guy Maté, merci pour ce que vient de dire John Kanyonyi. J'espère que je n'écorche pas son nom.
John Kanyonyi.
John Kanyonyi.
C'est la même chose, mais c'est Kanyonyi. Voilà.
Ok, ça va très bien, excusez-moi, mon cher confrère. Alors, moi, je voudrais déplorer une chose et dire que ça dure et ça dure. Parce que toutes ces rébellions qui écument l'Est de la RDC, tant qu'elles n'ont pas encore senti une réplique, une force de feu, pour leur dire, il faut plus jamais, pour toute la vie, pour tout le reste de votre vie, je pense qu'il faut une raclée pour leur dire, écoutez, trop c'est trop, la RDC est fatiguée, les FRDC sont fatigués, le peuple congolais est fatigué. Nous ne sommes pas une terre d'aventure où chacun vient, il fait ce qu'il veut, il se replie, il va d'où il est venu. C'est le cas malheureusement depuis 20 ans. Moi qui vous parle, j'ai assisté à presque tous les lieux de négociation, depuis Mouzé déjà, jusqu'à Sun City, et pas très très longtemps de ça, je crois 2013, peut-être John Kanyonyi était là, je ne sais pas, il y a eu ce qu'on appelait la conférence sur la paix dans le Kivu, qui a réuni tous les protagonistes de différentes guerres récurrentes dans cette région-là. Je voudrais dire tout simplement qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Moi, j'ai vu des gens qui étaient même incapables, le jour où on a clôturé. Et Vital Kamerhe était là, c'était l'homme orchestre de cette conférence sur la paix dans le Kivu, c'est lui qui recevait les gens pour signer. Excusez-moi de dire qu'il y avait des gens qui ne savaient même pas écrire. Excusez-moi, ça je le dis, parce que je suis énervé. Excusez-moi, j'ai vu des gens qui ressemblent plutôt à des voleurs de poules, dont les noms étaient devenus très célèbres parce que, voilà, ils tirent sur quelqu'un dans un village, et puis, voilà, ils cherchent une adresse d'une radio mondiale, il dit, je veux les négociations. Et on lui donne l'opportunité de négociation. Maintenant que le président ne dit pas de négociation, quelle est l'alternative avec tout ça?
Justement, Michel Moussembe Diawe, on parle depuis un certain moment de ces processus de cantonnement des rebelles du M23. On sait que ces rebelles ont posé comme condition pour leur cantonnement un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Et donc, comme il n'y a pas de dialogue, la réussite de ces processus de cantonnement, ce n'est pas pour aujourd'hui.
Oui, je veux bien qu'il y ait dialogue, mais il y en a déjà eu combien? On n'a pas le temps pour que je vous cite partout où nous sommes allés promener nos malheurs et nos bêtises. J'étais à Lusaka, j'étais à Stanley Falls, j'étais à, je sais pas, à Gaborone, j'étais à Sun City. Où est-ce qu'on n'a pas été? Même ici à l'intérieur de notre pays. Qu'est-ce que ça a donné?
Et c'est quoi l'alternative parce que les conflits s'enlisent sur le terrain?
Ça s'enlise sur le terrain. Il faut identifier les acteurs, les différents acteurs. Il faut identifier les intérêts des uns et des autres. Les intérêts de notre pays sont bien connus. Il faut essayer d'identifier les intérêts de ceux qui nous attaquent. Ils veulent quoi? Ils disent quoi? Et ben, comme le chef suprême du pays a dit, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de négociation. Ce n'est pas à nous à le forcer à aller vers là. Mais seulement, je retiens, depuis plus d'une trentaine d'années que ça se passe, que toute victoire militaire est éphémère. Toute victoire militaire laisse un goût amer derrière elle. Il faut, à mon avis, essayer d'associer toutes les forces vives de notre pays, surtout des provinces martyrs comme le Sud Kivu, le Nord Kivu, l'Ituri, essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas que le M23 qui tue. Il y a aussi le CODECO, que je sache, le CODECO est constitué des Congolais, des compatriotes, des pères et des mères. Voilà un terme qui est en vogue. Mais également, pourquoi dans le Rutshuru? Pourquoi dans le Masisi? Pourquoi des gens qui ont toujours habité ensemble, des gens qui étaient des voisins, qui partageaient tout, et se retournent, les uns coupent la tête aux autres? Il faut essayer de comprendre la profondeur de toutes ces questions. Parce que il faut éviter de passer d'une guerre classique à une guerre avec des milices. Parce que les milices, on va avoir difficile à les organiser. En fait, c'est des nébuleuses qui se battent. Et quand il y a des nébuleuses qui se battent, c'est sans aucun droit, aucun, etc. Il y a trop là-dedans. Et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a exactement, quelles sont les solutions idoines. Faut-il, à un moment donné, se dédire pour dire « allons quand même vers ces gens », même si des terroristes. Il faut, vous savez, ça devient compliqué, ça dure, et trop c'est trop.
Merci, Madame Bibi Chéliane Salomou. Peut-on continuer à espérer à un retour de la paix dans cette partie du pays, quand on voit comment les conflits ne se terminent pas, quand on voit comment les rebelles du M23 sont très réticents, n'est-ce pas, quant à ce qui concerne le respect de leurs engagements?
Oui, tout à l'heure, mes prédécesseurs ont parlé de la diplomatie. Il y a encore des cartouches. Et parmi ces cartouches, l'appel déjà apostolique du pape Jean-Paul II, lorsqu'il a dit tout haut, ôtez vos mains de la RDC, c'est déjà un signal fort que le pouvoir public devait se saisir. Et au-delà de cela, on voit les actions des organisations de la société civile sur terrain. Et je vois la coalition congolaise pour la justice transitionnelle, mais aussi la dynamique des universitaires congolais qui réclament l'instauration des mécanismes de la justice transitionnelle. Et sur base desquels on a demandé aussi déjà depuis de 10 ans, la mise en œuvre, l'utilisation du rapport mapping. C'est un rapport mapping qui est là, bien cadré. On a toujours demandé à ce que le gouvernement puisse nous aider à demander pour qu'on puisse déterrer ce rapport là où il était enterré, pour nous permettre de résoudre de temps soit peu les conflits. Parce que si le gouvernement, les pouvoirs publics, devraient saisir les Nations Unies en demandant l'installation du tribunal pénal international pour la RDC, ça résoudrait une partie des problèmes. Les gros poissons qui sont là, qui changent toujours de casquette, mais qui opèrent dans la RDC, devraient être déjà déférés et on aura la paix. La poursuite d'impunité, c'est ce qui justifie l'activisme des groupes armés. Alors, c'est une opportunité de demander, parce qu'il y a déjà des plaidoyers autour de ça, les organisations de la société civile, et je salue le travail fait pour demander à ce qu'on puisse mettre en pratique le rapport, mais aussi de communiquer la liste. Tant qu'on n'a pas rendu publique la liste des auteurs, on se retrouve juste à la documentation de faits, ça ne nous aide pas à aller de l'avant. Il faudrait que ces auteurs-là, comme on l'a dit, c'est le moment de délier nos langues pour nous aider à aller de l'avant. Sinon, la RDC sera comme ça et l'Afrique va en partir.
Merci, on prend une petite pause avec l'hymne à l'espoir de Nicolas Sikon. Et on revient juste après.
Le monde est trop fou, tu sais plus à qui parler. Tu refoules les coups jusqu'à t'isoler. Ton âme est à genoux, tes idées toutes épuisées. Tu courtises la mort pour ne plus pleurer. L'espoir est trop flou, le silence troublant. T'aimerais pouvoir t'enfuir, mais ton cœur te freine en danse. Cœur chante, quand la vie devient glacée, quand l'amour s'effondre, quand les âmes se rendent. Cœur chante, chante pour tous les mal-aimés, bien malgré le monde et les bombes qui tombent, allez. Après les larmes et la tristesse, après l'orage et la détresse, un soleil se lève toujours. Aussi profond que soit l'enfer, aussi présent que soit l'hiver, un printemps renaît toujours, toujours. Cœur chante, quand la vie devient glacée, quand l'amour s'effondre, quand les hommes se rendent. Cœur chante, chante pour tous les mal-aimés, bien malgré le monde et les vents qui tombent. Cœur chante, quand la vie devient glacée, quand l'amour s'effondre, quand les hommes se rendent.
C'était l'hymne à l'espoir de Nicolas Tsikon, c'est un chanteur québécois né le 1er décembre 1977 à Montréal. On revient à la tête de la semaine. Je rappelle que nous avons dans cette émission Michel Moussé-Médiaoui, journaliste, et il est éditeur des Médias Plus Magazine, qui paraît ici à Kinshasa. Madame Bibiche Liliane Salumu, membre de la société civile de Kisangani dans la province de la Tchopo, enseignante des sciences politiques et du genre. Et M. John Kanyunyu, journaliste, il est correspondant de La Voix de l'Allemagne d'Etchevelé, ici en RDC. Le député national Jackson Haoussé a déposé il y a quelques mois à l'Assemblée nationale une lettre d'interpellation à l'endroit du ministre des Travaux publics et infrastructures au sujet du délabrement des routes nationales de la partie est de la RDC. Pour l'élu de l'Ituri, il était souhaitable que le ministre s'explique devant la représentation nationale au sujet de l'état dans lequel se trouvent ces routes nationales. Depuis plusieurs décennies, la RDC connaît un déficit criant d'infrastructures routières qui constitue un frein à son développement socio-économique. Pourtant, au cours des dernières années, plusieurs programmes d'investissement sur les infrastructures routières ont été élaborés. Madame Bibiche Liliane Salumu, vous avez choisi de nous parler du développement local endogène des territoires hypothéqués à cause de l'état de délabrement des routes. On vous écoute.
Oui, vraiment, je dois d'abord féliciter le pouvoir public parce que il a su mettre en œuvre le plan national stratégique de développement et de par ce plan qui découle aussi des schémas provinciaux d'aménagement du territoire qui permet vraiment d'assurer le développement au niveau local, au niveau des territoires. Mais alors, le grand problème, le PIN, réside au niveau de la maintenance de ces routes. Aujourd'hui, Kisangani a du mal à se connecter de Bafoua-Sendé. La RN4 Est pose des problèmes de maintenance. Nous voyons là, les camions sont en train de tomber le long de la route. Faire la mobilité des personnes et de leurs biens pose des problèmes. Et aussi, si nous regardons de l'autre côté, il y a aussi quoi? C'est l'enclavement des entités difficile à pouvoir connecter les chefs-lieux des territoires aux chefs-lieux des secteurs et des secteurs aux chefs-lieux des groupements, ça pose des problèmes. Et là, maintenant, on voit que le développement local, tant voulu, tant espéré, restera toujours dans nos têtes et il y aura du mal à pouvoir le vivre au niveau de nos communautés locales. Et ça, ça pose un problème aussi de voir comment est-ce que ces populations doivent survivre. S'il n'y a pas de route, comment est-ce qu'ils vont valoriser leurs produits? Et ça traîne une chaîne de dépendance totale, alors qu'il fait assez que le développement aujourd'hui local reste vraiment hypothétique et hypothéqué. Et ce n'est pas seulement la province de la Tchopo. Si je vois les provinces aussi voisines, Cela pose des problèmes tels que vous avez soulevé tout à l'heure à l'introduction. Je vois la province de la Tchopo, la province de Bazou, elle est connectée au niveau de la province de la Mongala. Et je vois s'il y a les mobilités qui restent là, hypothétiques. Maintenant, le développement de partenariats publics et privés, ça posera des problèmes. Et tout, ça serait vraiment une chaîne de problèmes, des problèmes. Alors pour cela, je demanderai au pouvoir public de réfléchir de manière à ce qu'il commette une politique d'infrastructure, surtout de la maintenance d'infrastructures routières, mais aussi de voir le système de péage. Si on doit le faire, on doit le faire à combien de kilomètres? 50 ou 100 kilomètres, mais de veiller aussi à ce que ce système de péage ne puisse pas être une tracasserie pour les intervenants, parce que s'il y a des barrières, des péages et tout ce qu'il y a comme obstacles le long de la route avec les tracasseries, ça peut aussi friser, ça peut aussi mettre à mal les efforts du développement.
Oui, on sait que le programme de développement local des 145 territoires est en cours d'exécution, vous l'avez d'ailleurs rappelé, à travers les pays. Comment ce programme est mis en œuvre dans la province de la Tchopo, Madame Bibiche Liliane Salomon?
Je dirais, ça pose des problèmes. Le grand problème d'abord, c'est comment faire acheminer les équipements vers les sites choisis. Au moment où je vous parle, nous sommes pendant la saison pluvieuse, et cette saison ici, la fluidité dans le trafic au niveau de la route, ça pose un problème. Donc disons qu'ils auront du pas. J'ai rencontré les équipes de PNID qui vont en supervision. Ils étaient arrêtés au mi-chemin, faute de quoi? Faute des routes. Donc il y a des soucis à se les dire, et qu'on doit demander, c'est que, moi, mon avis, il faudrait d'abord prendre pour priorité la maintenance des infrastructures routières, au-delà des infrastructures scolaires, au-delà des infrastructures sanitaires.
Merci, John Kanounou. Il est dit que la route entraîne le développement. Et les programmes de développement de 145 territoires ne devraient-ils pas commencer par la construction et la réhabilitation des artères stratégiques telles que les routes nationales? Vous avez suivi Maman Bibiche qui pense qu'il faut tenir compte, n'est-ce pas, de la maintenance. Il faut privilégier d'abord la maintenance des routes existantes.
Oui, effectivement. Donc, on devrait commencer normalement par là, parce que pour acheminer les matériels ou les matériaux, il faut passer par des routes. Et notre co-débattrice a parlé des systèmes de péage route. À l'époque, il y a eu Foner qui existe encore, je pense peut-être dans certaines provinces. Mais Foner n'a pas aidé les gens, les usagers de route, de bien travailler. Les camionneurs payent des taxes, péage route. Malheureusement, au retour, il n'y a rien qui est normalement fait. Les gens ont utilisé Foner, ont utilisé peut-être les organisations ou les sociétés de péage route. Certains ont utilisé ces sociétés-là pour s'enrichir. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi, vous connaissez notre pays, il se pose un problème des pourcentages. Vous pouvez gagner marché par rapport à ça, mais on vous dit, mais bon, bisotobolianini, qu'est-ce qu'on va manger dans ça? Donc, je pense que pour travailler, pour avoir des routes praticables, on doit mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Les gens des péages de route, ils doivent utiliser cet argent pour l'entretien de ces routes-là, parce que cet argent provient de ces routes. Il faut payer les cantonniers, il faut acheter les matériels qu'il faut pour entretenir ces routes, et on peut espérer quelque chose. À part ça, il y a des camionneurs aussi qui ne facilitent pas les choses aux sociétés qui entretiennent les routes. Il y a le problème des tonnages. Hein, on peut vous dire, non, tel camion peut avoir tel poids, mais il y a le surpoids. Et ça, ça tue nos routes. Et malheureusement, les autorités ferment les yeux parce que peut-être elles comptent sur l'argent reçu. Mais je me dis, on doit faire appliquer la loi, on doit faire appliquer les règles pour espérer avoir les infrastructures en place et surtout les routes praticables. Mais aujourd'hui, en tout cas, à part certaines routes que je ne vais pas citer ici, parce que les gens peuvent croire que je fais la publicité d'une agence ou d'une société quelconque, mais il y a quand même certaines routes qui sont praticables parce qu'il y a des attributaires, voilà, il y a des attributeurs qui sont sérieux et qui savent bien traiter les agents, les cantonniers, et qui sont conscients que l'argent qu'ils perçoivent, le pourcentage qu'ils bouffent là, vient des routes concernées. Voilà, il faut que les gens apprennent à aimer le pays, à servir le pays partout où ils sont, et on ne pleurera plus de dire non, le gouvernement, tel la bisolikambo, on n'aura pas besoin de ça, quand tout le monde portera le pays, portera le Congo dans sa tête, et tout ira mieux.
Merci Michel Moussebe Diawe. Nous allons finir cette émission avec vous. C'est quoi, à votre avis, les modèles de développement adaptés aux pays, aux dimensions continentales telles que la RDC?
Je voudrais rappeler d'abord que la RDC était l'un des pays les mieux pourvus en matière d'infrastructure. Deux petits exemples. Est-ce que vous savez que Gizeng a quitté ici Kinshasa avec une VOE? Il fuyait Kinshasa pour aller rejoindre Lumumba Kisangani.
En 60.
Ah oui. Est-ce que vous savez que la plupart des inspecteurs scolaires, économiques, etc., pour revenir au Kivu, ils allaient de Bukavu à Kindu faire l'inspection. Il arrivait le même jour. Aujourd'hui, il ne faut même pas essayer, ça n'existe pas. Le modèle de développement, je me réjouis que le président de la République ait institué le programme des 145 territoires. Encore faut-il que on fasse une cartographie des besoins de chaque entité. Parce que les besoins du Sankuru ne sont pas ceux du Kivu, pris en général, ils ne sont pas ceux du Bas-Congo. Il ne faut pas apporter des projets clés en main à des gens qui n'ont pas besoin de ce genre de choses. Deuxièmement, il faut, parce que vous l'avez dit, d'ailleurs vous-même, la route, c'est par là que passe le développement. Il faut reconstruire les routes pour relier non seulement les entités physiques de notre pays, mais également les routes ont un rôle sociologique extrêmement important. Je dirais même un rôle sécuritaire extrêmement important. Quand les gens se côtoient, ils se connaissent, ils se découvrent, ils se disent, on est tous les mêmes, on appartient au même pays. Mais aujourd'hui, quand vous quittez, je prends Ingende, où j'étais il n'y a pas très longtemps. Ingende, c'est à 60 km de Mbandaka. On n'y va que par la pirogue. On prend le fleuve Congo et puis on prend la Ruki et on fait 9 heures pour aller. 7 heures pour redescendre. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se risquent dans ce genre d'exercice. Vous prenez par exemple Kananga pour aller à Luisa, pour aller à Mweka. Il n'y a que la moto et les routes ne sont pas sécurisées. Si les gens commencent à passer régulièrement sur ce genre de route, ils vont premièrement se découvrir, deuxièmement, ils vont échanger des gros tonnages de produits. Parce que ce qui est produit à Mweka ne l'est pas à Luisa, ne l'est pas à Chikapa, etc. Il faut relier absolument les centres de production aux centres de consommation. S'il y a aujourd'hui des jeunes qui sont dans des groupes armés, c'est parce qu'ils ont tout essayé, ils ont produit, leur production agricole a pourri finalement, et ils se disent, bon voilà, on prend le court chemin. Le court chemin, c'est de prendre l'arme, d'aller extorquer, d'aller tuer, d'aller voler, etc. Donc, moi je pense que la route est un élément extrêmement important. Et nous, en tant que RDC, et c'est ce que je dis à ceux qui s'occupent des 145 territoires, il faut un recensement systématique, une cartographie de toutes les routes qui ont existé. Ça ne sert à rien de créer de nouvelles qui ne mènent nulle part. Parce qu'une route va d'un point A à un point B. Et pourquoi ça va d'un point A? C'est parce qu'à ce point A, il y a une agglomération, il y a des infrastructures sanitaires, il y a des écoles, et ça mène vers un point B, parce que là-bas on produit ceci, ceci et cela. Il faut relier les Congolais entre eux. C'est ce que je voulais dire. Comment voulez-vous que même dans cette ville de Kinshasa, le train que nous avons connu n'existait plus? On allait à Matadi facilement par train, on quittait l'aéroport de Ndjili, ou c'est pas Massina par train jusqu'à Kinshuka. Aujourd'hui ça n'existait plus. Et on se plaint qu'il y a des embouteillages, c'est tout à fait normal. Une ville sans train, c'est invivable. Donc, pour conclure, je dis, construisons la nation, construisons les routes, construisons aussi nos cœurs.
Merci, merci, voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Bibiche Liane Salomou, Monsieur John Kanyunyu et Monsieur Michel Moussemé Diawe. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et d'Edep Sevita. À la présentation, Guy Maté sous la supervision d'Alex Essomé, Martin Sebujangwe et d'Étienne Rogerie. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Ntoa Bwanga du célèbre guitariste Dino Vangu dans l'orchestre Aprisa International, chanson sortie en 1985. Et on se retrouve le samedi prochain.
Ni la batiste.